L2 géant. Bienvenue sur L2 géant, le podcast de l'école des lettres. Aujourd'hui, L2 géant reçoit le journaliste Emmanuel Davidenkoff pour évoquer une nouvelle émission, La Quotidienne, diffusée sur School TV, une web TV ou une télévision sur Internet dédiée aux questions d'éducation. C'est aussi plus largement l'occasion d'évoquer le parcours de ce journaliste qui s'est spécialisé dans l'éducation. Et puis, on va parler des médias et des rubriques consacrées aux questions d'éducation et aussi, conjointement peut-être, d'éducation aux médias. Bonjour Emmanuel Davidenkoff.
Bonjour Ingrid.
Vous avez donc lancé à la fin du mois de janvier une émission, La Quotidienne, diffusée sur un nouveau média dédié aux questions d'éducation, School TV. Alors Emmanuel Davidenkoff, quelle est cette chaîne et comment peut-on présenter cette émission ?
C'est une chaîne qui a été lancée en janvier par une entreprise qui s'appelle You Know Why, dirigée par Jean-Yves Hepp, qui est une entreprise qui fabrique des tablettes et des ordinateurs. Et Jean-Yves Hepp a très tôt compris, c'est un fils de prof, peut-être qu'il y a un lien, mais bon. En tout cas, il a très vite compris que l'enjeu du numérique, c'était pas le numérique, c'était la pédagogie. Il a créé un certain nombre de supports pour faire discuter de pédagogie des gens qui la pratiquent et des gens qui y croient, avec du numérique ou pas, et ce, sur ce qu'il appelle son campus, juste à côté de Paris. Et donc, il a un accélérateur pour des gens qui veulent créer des initiatives en matière éducative. Il a plein de salles de démonstration avec beaucoup de matériel pédagogique. 90% c'est du numérique, mais on voit même des manuels scolaires, papier, et où il accueille des enseignants pour montrer tout ce qui est possible de faire. Et au même étage, des locaux donc de School TV, qui produit 3 heures de programme quotidien, il y a 4 émissions, avec comme seule ligne éditoriale de faire une chaîne de solutions. Pas une chaîne sur les problèmes de l'éducation, alors évidemment on en parle des problèmes. Disons que le contrat moral, c'est que si on parle des problèmes, on parle de personnes qui apportent des solutions. Pourquoi ? Ben tout bêtement parce que ces personnes existent, d'une part, et d'autre part parce que ça peut éventuellement être utile à tout le monde, évidemment aux enseignants, aux personnels d'éducation en général, mais aussi aux parents, mais aussi pourquoi pas aux élèves, en tout cas au moins aux grands élèves, et plus généralement à l'opinion publique. Et donc à l'intérieur de cette chaîne, il y a donc dans ces 4 émissions, il y en a une qu'on a appelée la quotidienne. Je dis que c'est l'émission qui raconte l'école du quotidien ou l'éducation au quotidien, donc ça permet à la fois de surfer sur soit des thématiques qui sont plus des thématiques d'éducation au sens j'élève mon enfant, ou des thématiques plus éduques au sens système scolaire. Et puis il y a des chroniques à l'intérieur de cette émission, une chronique sur le droit, qui est un domaine souvent très oublié, droit de l'éducation, une chronique psy qui est faite par Sophie Marinopoulos, psychiatre et psychanalyste d'ailleurs absolument passionnante. Il y a des chroniques sur le livre jeunesse, qui est fondamental, qui sont faites par une libraire, et des chroniques sur des initiatives pédagogiques un peu piochées dans le monde entier. Plus, oui, une chronique où on décode aussi l'actualité en essayant de raconter comment elle résonne dans les programmes. Puis une récré, parce qu'il faut quand même rigoler 3 minutes, c'est un endroit où on rigole, les écoles aussi, les collèges et les lycées.
Et alors, le principe, c'est que vous recevez un ou une invitée à chaque numéro, chaque quotidienne.
Voilà, il y a le grand oral, on appelle ça le grand oral. Et effectivement, ce sont des personnes qui... Alors, il y a une ou deux exceptions, mais globalement, ce sont des personnes qui font. Qui font quoi ? Alors, qui peuvent faire des revues, comme l'École des Lettres, puisqu'on vous a reçu et c'était un plaisir, qui font un disque et des DVD pour les enfants sourds, pour les familiariser avec la langue des sourds, qui font des associations qui travaillent sur la notion de raison d'être et qui vont dans des écoles de REP pour, à côté des enseignants, essayer d'inviter les élèves à s'interroger, qui font des romans pour les enfants, des romans historiques ou des romans sur leur vie, sur les sentiments. Donc c'est plein de sujets, vraiment le point commun de toutes ces personnes, c'est qu'elles font et accessoirement qu'elles sont ravies de faire. Évidemment, un certain nombre d'enseignants qui interviennent, mais pas exclusivement, puisque l'éducation, c'est quand même une œuvre collective.
Alors là, on est 4-5 mois après le lancement de cette émission. Est-ce que vous avez déjà un petit peu de recul ? Vous avez une idée de qui sont vos auditeurs ? De comment est-ce qu'on vous regarde ? Puisque donc, une télévision en ligne, ça a l'air très mystérieux.
La chaîne est diffusée pour le moment sur la Freebox, pas encore chez les autres opérateurs, on espère que ça va arriver. Donc il y a une partie de l'audience, je vous l'avoue, qu'on ne connaît pas, et sinon ça circule effectivement via les réseaux sociaux et sur Internet. On attend les premières études d'audition. Moi, ce que je constate, c'est que plus les semaines passent, et plus, en tout cas, dans le monde élargi de l'éducation, au sens très large du terme, quand on téléphone pour inviter des gens, ils ont vaguement entendu parler de la chose, voire ils connaissent. Donc je me dis que la renommée commence à s'installer gentiment, et que le noyau des personnes qui se passionnent pour les questions d'éducation a remarqué qu'il y a une chaîne de télé qui s'est créée, qui parle d'eux, qui leur donne la parole, qui le fait sans porter de jugement, et à leur côté, et voilà, j'ai l'impression que ça commence à se savoir.
D'autant que l'avantage d'une télévision en ligne, c'est qu'on peut, tout réécouter, re-regarder en replay.
Absolument. C'est ça, il y a 3 heures originales, 3 heures fraîches, comme on dit, tous les jours. Mais déjà, sur la chaîne, elles sont multidiffusées. Et effectivement, tout ça est archivé, permet de retrouver les émissions. C'est vrai que certaines d'entre elles, alors, sont très, il y a le JT de l'éducation, il y a le Mac de l'éducation, il y a des émissions qui sont plus particulièrement ancrées dans l'actu, mais ce qui n'empêche pas qu'on ait envie de les regarder plus tard. Et puis, il y a des émissions plus magazines. Et là, ce sont des sujets qui sont intemporels. Effectivement, ça, on essaye de constituer une forme de bibliothèque.
Alors vous êtes journaliste au Monde, vous êtes responsable des événements et des partenariats éditoriaux. Alors est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi ça consiste et aussi comment est-ce que du coup vous êtes retrouvé sur Scoop TV, vous aviez envie de faire un petit peu de télévision?
Alors, les événements et partenariats éditoriaux du Monde, chaque année, le Monde accompagne ou crée entre 60 et 80 événements physiques, ce qu'on croit beaucoup à la rencontre, et on pense au journal que la rencontre, donc ça peut être des conférences, des colloques, des festivals, etc., on pense que c'est une autre façon d'écrire l'information. Donc, on peut l'écrire en écrivant des articles qu'on imprime ou qu'on met sur Internet, on peut faire des podcasts, on en fait au Monde, on peut faire des vidéos, on en fait au Monde, mais on peut aussi les écrire sur une scène avec des intervenants, et que c'est une façon de traiter l'information, qui évidemment a l'avantage d'être hyper incarnée et interactive, puisque dans tous nos événements, le public est invité à participer, à poser des questions. Donc c'est une autre façon de documenter le réel, ce qui est le travail du journal Le Monde. Et là, c'est tous azimuts. C'est-à-dire qu'on peut en faire effectivement sur ce qui a longtemps été mon sujet de spécialité, qui est l'éducation, mais c'est absolument tout sujet confondu. Quand je suis arrivé au Monde, j'avais encore une chronique sur France Info qui s'est arrêtée. J'ai fait pendant 20 ans une chronique sur l'éducation. À la fin, c'était plutôt un jeu de culture G. Enfin, ça tournait autour de ça. Donc de toute façon, c'est le fil rouge de l'ensemble de mon parcours professionnel. Scoop TV m'a contacté en disant... On crée cette chaîne, il y aura une émission quotidienne, est-ce que ça vous intéresse d'être de cette aventure-là? Ça aurait été pour recommencer à faire de l'actu un peu institutionnelle, politique, etc. J'en ai beaucoup fait, je suis pas certain. Enfin si, je suis certain que j'y serais pas allé en fait. En revanche, l'éducation telle qu'elle se fabrique, ça reste quelque chose d'absolument passionnant et qui continue de me passionner. Voilà, donc si c'était pour le faire de cette manière-là, en donnant la parole à des gens qui font, je trouvais que c'était intéressant, utile et j'ai dit oui.
Télévision, vous aviez jamais fait?
J'avais fait un tout petit peu sur une chaîne qui s'appelait La Cinquième dans le temps, qui maintenant s'appelle France 5. On avait un petit peu fait au Monde, on avait créé une émission qui s'appelait Campus Le Mag, autour de l'orientation, qui se baladait dans toute la France. Donc oui, j'en avais fait un tout petit peu, mais j'en avais pas fait beaucoup.
Est-ce que ça change parce que vous avez fait de la presse écrite, presse quotidienne, presse magazine? Donc en presse quotidienne, je peux citer Libération, vous avez été journaliste éducation à Libération, vous avez été chroniqueur à France Info, vous avez travaillé à France Musique, donc l'étudiant, prof magazine, ça s'appelait ?
Ouais, absolument.
Prof magazine. Est-ce qu'on fait du journalisme différemment en fonction des supports ou est-ce qu'au fond du fond, c'est quand même un peu le même métier ?
Radio de plateau et émission de télé de plateau, c'est quand même pas très éloigné. Bon, il y a la caméra en plus, il y a le ton qu'on veut donner. C'est vrai que je découvre ça, hein, mais la caméra, c'est amusant. Enfin, on peut jouer avec une caméra, on peut jouer avec le regard des gens. Donc on peut passer des messages, passer des informations un peu différemment de la façon dont on le fait à la radio. Ensuite, je pense que c'est plutôt la proposition éditoriale qui change. On peut faire de la radio ou de la télé ou de l'interview en presse écrite. Souvent, je dis, il y a les interviews duo et les interviews duels. C'est-à-dire qu'on peut interroger quelqu'un pour le challenger, pour lui dire, voilà, vous avez dit que c'est pas vrai. Enfin, en tout cas, c'est pas vrai. On a l'impression que c'est pas vrai. On va pousser les gens dans leur retranchement. Et voilà. Souvent, parce que ce sont des responsables politiques, enfin, en tout cas, des gens qui parlent au nom d'autres et qui ont une responsabilité. Et il est normal, c'est un morceau du travail de citoyen professionnel qu'est le journaliste, que de mettre en question ces choses-là. Et puis, il y a les interviews plutôt duo, qui sont, vous êtes journaliste dans un domaine, vous identifiez des personnes qui font des choses que vous jugez intéressantes, à tort ou à raison, en tout cas à partir de votre expertise et de ce qu'on peut vous dire autour, vous pensez que c'est intéressant, et là vous vous dites, voilà, il faut porter à la connaissance du public l'existence de cette chose-là, et permettre à cette personne d'expliquer, d'aller un petit peu au bout, et d'aller un petit peu au fond des choses, voilà. Donc c'est plutôt ça, je pense, qui varie essentiellement, et personnellement, moi j'ai pratiqué les deux, puisque France Musique, c'était plutôt du duo, France Culture, à une époque, c'était plus compliqué, parce que c'était pas que de l'interview, c'était des plateaux, mais il y avait cette idée quand même d'approfondissement, de creuser. Puis, quand on couvre l'actu, typiquement ce que j'ai fait longtemps à France Info, ou ce que j'ai fait effectivement à Libération ailleurs, là c'est différent. C'est effectivement, on est plus dans le duel que dans le duo. Pour moi, en tout cas, c'est ça qui change le plus. À part ça, les fondamentaux du journalisme demeurent. On essaye de ne pas dire trop de bêtises, on essaye de contextualiser, on essaye de bien choisir ses sujets, on essaye de sentir ce qui bouge, ce qui bouge pas, de donner une vision la plus honnête possible du réel, sachant qu'après on est soumis comme tout le monde à plein de biais qui font que c'est sans doute imparfait, mais heureusement, on n'est pas tout seul. Il y a une pluralité de la presse en France, donc ça, c'est absolument essentiel.
Ça doit dépendre aussi de la liberté, peut-être éditoriale, qu'on a.
Oui, mais alors là, j'ai eu la chance de travailler pour des médias qui portaient des valeurs avec lesquelles j'étais à l'aise. De toute façon, sinon, il suffit de pas y aller. Libération, Le Monde, Bayard, Radio France, etc. Et aujourd'hui, School TV sont des endroits où moi, je me sens pas... Enfin, il n'y a pas de... Pas d'étudiants, évidemment, mais bon, j'étais directeur de la rédaction, donc c'est un peu moi qui construisais le truc à un moment, mais... Voilà, donc la liberté, elle est pas très compliquée à trouver, en fait. Et puis l'éducation, c'est pas un monde, je sais pas comment vous dire, il y a des sujets qui sont beaucoup plus complexes. C'est pas un monde où il y a beaucoup d'argent, enfin, vous êtes pas confronté en permanence à des types qui essayent de vous acheter. Donc c'est...
Vous avez pas les mêmes pressions. Mais alors, justement, non. Vous êtes tombé dedans comment, vous, l'éducation? Parce que vous étiez étudiant en lettres à la Sorbonne, ouais. Je crois, et vous avez commencé tout de suite à l'étudiant, alors que vous étiez étudiant vous-même?
Alors ouais, j'ai commencé à l'étudiant à 21 ans, alors que j'étais étudiant, mais l'étudiant m'avait retrouvé. Parce que je m'occupais d'un journal étudiant qui s'appelait Sorbonne Nouvelle, qui est un journal qui avait été créé en décembre 86, pendant les grèves contre la réforme de Vaquet. Et alors moi, je ne suis pas rentré en 86, je suis rentré juste après, mais en 88, et j'étais devenu directeur du journal. Et l'étudiant a fait un article sur nous, et le journaliste qui avait fait l'article m'avait proposé de venir pour faire des brèves. Voilà, donc j'ai vraiment appris sur le tas. J'avais prévu, hein, j'avais envisagé de faire une école de journaliste, mais en fait, comme après le stage, on m'a proposé un contrat à durée déterminée, puis un contrat à durée indéterminée, en fait, je suis devenu journaliste comme ça. Et j'ai tout appris en faisant. Et la passion pour l'éducation, elle s'est construite de cette manière-là. C'est-à-dire que déjà, à Sorbonne Nouvelle, c'était sur les études, c'était sur le SUP, mais c'était les études universitaires. Bon, voilà, c'était un journal étudiant, certes, mais c'était un journal qui parlait soit de ce qui se passait au Quartier Latin, soit qui parlait des grands enjeux de la Sorbonne ou des études supérieures. Et ensuite, à l'étudiant, ça s'est prolongé. Quand vous êtes journaliste spécialisé, après, un poste en appelle un autre, et vous restez, vous creusez toujours le sillon. Donc, en fait, la question après, c'est pourquoi j'y suis resté, et j'y suis resté pour deux raisons. La première, c'est que, c'est une grande banalité, mais enfin moi ça fonctionne depuis plus de 30 ans, l'éducation a été ma façon en tant que journaliste d'essayer de comprendre le monde dans lequel on vit. Et avec l'éduc, on peut tout faire. Vous faites évidemment du social, énormément, vous faites du politique, vous faites de la psychologie, vous touchez aussi bien à la petite enfance qu'à l'insertion dans la vie active, vous faites forcément un peu d'urbanisme, ou des territoires ruraux, enfin en tout cas d'aménagement du territoire, vous faites de plus en plus d'international, alors plus, dans un premier temps, via l'enseignement supérieur, quand même très mondialisé aujourd'hui. Mais avec l'arrivée de PISA, toutes les études de l'OCDE, on a commencé, en étant journaliste national, à s'intéresser à ce qui pouvait se passer à l'international aussi. C'est une spécialité qui, moi, m'a permis d'essayer de comprendre dans quel monde je vis et d'essayer, évidemment, de le faire comprendre aux lectrices, aux lecteurs, aux auditeurs et auditrices, etc., par la suite. Donc ça, c'est vraiment le point, c'est que c'est passionnant. L'autre aspect, c'est que ça m'a permis de pratiquer plein de formes de journalisme différentes. Mais effectivement, la radio, la presse écrite, la télé, et dans chaque catégorie, des choses aussi différentes que France Info ou France Culture. Enfin, c'est-à-dire, quand vous êtes à Radio France, vous êtes d'un côté dans des formats hyper courts, hyper informatifs, très factuels, et de l'autre, vous êtes dans des formats longs où on va creuser, donner la parole à des universitaires. Enfin, voilà. J'ai appris plein de facettes du métier de journaliste. Pourquoi ? Parce que les gens me faisaient confiance sur la spécialité. J'ai failli me faire virer de France Info quelques semaines après être rentré. Et le directeur, à l'époque, me fait venir. Alors, il m'avait embauché en me disant, en gros, tu connais rien à la radio, mais tu connais un peu les questions d'éducation. Mon hypothèse, c'est que je te formerai plus vite à la radio que de former à l'éduc quelqu'un qui parle bien à la radio. Mais au bout de 15 jours, il me fait venir et il me dit, bon, écoute, sur le fond, voilà, mais radio, non, ça va vraiment pas. Je te donne 15 jours pour comprendre le truc, sinon on va s'arrêter là. Mais ça s'est toujours un petit peu passé comme ça. School TV, c'est pareil. Ils savaient que j'avais fait un tout petit peu de télé, mais pas des masses. Ils ont fait l'hypothèse. Entre la radio et le fait de connaître un petit peu le sujet, je m'habituerai à la présence de la caméra, ce que j'essaye de faire.
Qu'est-ce que vous avez fait à la radio pour vous mériter qu'on vous vire ?
J'avais pas le ton. Et alors à l'époque, en plus, c'est la fin des années 97-98, il y avait un ton France Info qui était beaucoup plus normé qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, quand vous écoutez France Info, on vous parle à peu près normalement, les gens respirent, quand ils balbutient dans une chronique, on ne coupe pas forcément le balbutiement. Je suis rentré sur France Info, vous savez, c'était l'époque... Je suis même pas capable de vous imiter ça, il faudrait que vous me donniez un texte. Où le ton était hyper, hyper, hyper formaté. Et il fallait attraper ce ton-là. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes dans votre voiture, c'est une radio qui est beaucoup écoutée dans la voiture, et donc il fallait qu'il y ait une couleur d'antenne qui fasse que quand les gens écoutent, ils savent « Ah, je suis sur France Info ». C'est pareil pour Inter, c'est pareil pour Europe, pour RTL, c'est pareil pour toutes les chaînes. Et j'avais pas attrapé ce truc-là.
Il fallait reconnaître tout de suite à l'oreille qu'on était sur
Exactement.
France Info.
Exactement.
Du coup, vous êtes entraîné.
La personne qui m'a permis de trouver le truc, si tant est que je l'ai trouvé, mais enfin, il faut croire, parce qu'ils m'ont quand même gardé pendant quelques années après, c'était Anne Hudson, paix à son âme, elle est décédée il y a longtemps maintenant. C'est la femme qui avait fait l'ouverture d'antenne de France Info, d'ailleurs. On ne se souvient pas assez, mais ils avaient donné l'ouverture d'antenne à une femme à l'époque. Ce n'était pas si courant, les radios étaient très masculines. Et elle m'a dit, mais t'as pas tellement, moi je cherchais la voix, le truc, on me disait, pose ta voix, faut pas que ça chante, faut pas machin. Et en fait, elle a pris un de mes textes, elle m'a dit, mais tu sais pas écrire pour la radio. Et c'était un problème d'écriture. Et en fait, c'est à travers l'écriture que j'ai résolu le problème du ton.
Donc vous avez travaillé votre voix. Il y avait encore à l'époque une tradition de compagnonnage dans cette radio, ou peut-être donc c'est quelque chose que vous avez rencontré fréquemment dans votre parcours ?
France Info, franchement, les chroniqueurs ont été super sympas. J'étais tout jeune, ils voyaient bien que je galérais au début, donc il y en a un certain nombre qui, j'ai cité Anne Hudson, il y en a eu d'autres, qui m'ont aidé, qui m'ont filé des coups de main. Après, c'est pas non plus un univers de bisounours, donc faut se débrouiller tout seul aussi. On vous aide une fois, mais c'est pas du compagnonnage où on va vous tenir la main pendant 6 mois. De toute façon, j'avais pas beaucoup de temps pour prouver que j'avais attrapé le truc. Mais le compagnonnage, d'une certaine manière, non, moi je l'ai vécu notamment en arrivant à l'étudiant. Ça existe moins aujourd'hui parce que c'est des questions d'argent, tout ça. C'est-à-dire que s'il n'y a pas assez de monde dans les rédactions, les gens doivent produire et n'ont pas le temps d'accueillir, d'encadrer les jeunes. C'est ça le vrai problème, c'est un problème économique.
Est-ce que vous voyez le paysage médiatique spécialisé aujourd'hui ? Comment est-ce qu'il s'est transformé ? Est-ce qu'il y a encore comme ça des médias d'éducation qui font référence ? On parlait du monde tout à l'heure, il y avait le monde de l'éducation qui est passé en ligne maintenant. Vous avez travaillé longtemps à Libération. Les enseignants, peut-être que vous recevez à School TV, est-ce qu'ils lisent encore la presse écrite ? Est-ce qu'il y a comme ça des titres qui font référence ?
L'école des lettres, évidemment. C'est ça qui fait que je réponde.
Évidemment.
Non, je pense que ce qui a le plus changé, c'est les réseaux sociaux et les blogs dans un premier temps, les plateformes, etc., les podcasts. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et c'est génial, les enseignants ont créé leurs propres médias ou sont leurs propres médias et s'expriment. Et c'est ça qui est formidable. Et c'est ça la vraie nouveauté pour moi. Cette capacité qu'ils ont à raconter sur TikTok, il y en a sur Snapchat, il y en a partout. Donc c'est ça, je pense, qui est le principal changement. Pour le reste, les grands titres qui existaient quand je m'occupais d'éducation au quotidien existent, je pense, à peu près toujours, enfin, à part effectivement que le monde de l'éducation n'existe plus sous sa forme papier. Et malheureusement, il n'y a pas eu beaucoup de créations jusqu'à School TV. La chronique que je faisais sur l'éducation sur France Info, elle n'a pas été remplacée. France Culture, Louise Touré fait toujours une émission qui est beaucoup sur l'éducation, mais pas exclusivement sur l'éducation. Sur France Inter, il n'y a toujours pas de rendez-vous autour des questions d'éducation. À ma connaissance, il n'y en a pas sur Europe, sur RTL. Enfin voilà, et à la télé, il n'y a pas grand-chose. Enfin, à part School, évidemment, mais je trouve que c'est un sujet qui n'est pas suffisamment traité, et je le déplore. Et ça, toutes les personnes qui s'y intéressent le savent. Il y a autant de spécialistes de l'éducation que de personnes qui vivent dans ce pays, parce qu'on a tous été à l'école. Et tout le monde pense avoir un avis très informé là-dessus. Il faudrait informer plus, informer mieux. Enfin, je lis parfois ou j'entends les mêmes truismes aujourd'hui qu'il y a 20 ans ou 30 ans, qui sont des choses pourtant qui sont hyper documentées, soit par la recherche, soit par des études internationales, soit par l'observation de ce qui peut se passer autour de soi, et ça n'est pas suffisamment su. Il y a beaucoup de croyances, je trouve, dans le débat sur l'éducation. C'est aussi pour ça qu'à un moment donné, couvrir l'actu de l'éducation au sens propre du terme devient fatigant et lassant, parce qu'on est confronté à des croyances. Et nous, comme journalistes, les croyances, c'est compliqué. On essaie plus aller chercher du factuel, etc. Donc c'est dur de se battre contre des croyances.
Ça reste une spécialité, par exemple chez les jeunes journalistes, les chroniqueurs peut-être que vous avez à School TV. Est-ce qu'il y en a qui veulent se spécialiser sur les questions d'éducation ? Vous avez rencontré des petits Emmanuel Davidenkoff dans d'autres médias ?
Non, mais il y a toujours des journalistes qui, au Monde, on a recruté des journalistes qui, assez jeunes, avaient envie de se... je pense à Séverin Gravelot, qui maintenant est à Campus, mais qui avait créé la newsletter, justement, Le Monde de l'éducation. Et lui, c'est un passionné de questions d'éducation depuis le début. Marine Miller, qui est rentrée, pareil, au Monde, c'était une spécialité. Elle était passionnée par ça. Donc, il y a toujours Alice Rebaud qui a été recrutée. Je parle que du Monde, mais enfin, ouais, c'est parce que c'est ceux que je connais le mieux. En tout cas, pour répondre à votre question, tout jeune, ils étaient déjà extrêmement intéressés par le secteur. Et pour certains, ils sont arrivés au Monde par la voie de l'apprentissage en demandant un service qui était consacré aux questions d'éducation. Après, ça répond aussi à un marché. Il y a l'AEF, il y a des médias spécialisés. Je pense que ça s'est su dans les écoles que c'est une spécialité avec laquelle on pouvait trouver un poste. Pour le dire de manière optimiste, je pense qu'on ne vient pas par calcul. Mais par contre, s'il n'y a pas de poste derrière, ça devient très compliqué. Je pense que ça a encouragé toute une génération à se spécialiser.
Vous disiez tout à l'heure que c'était une rubrique très complète. C'est aussi ça qui expliquait que vous y étiez resté si longtemps. Vous avez fait des petits pas de côté, est-ce qu'on peut dire des escapades, notamment en culture, en littérature de jeunesse. Vous avez tenu pendant plusieurs années une chronique dédiée à la littérature de jeunesse sur France Info.
Les enfants des livres.
Et puis, les enfants de la musique sur France Musique. Ouais. Vous aviez des envies de journalisme culture ?
Alors d'abord, éducation et culture, c'est quand même intimement lié. Ensuite, votre question, elle est intéressante parce qu'en fait, il y a plusieurs médias dans lesquels je suis rentré sur des projets liés à l'éducation et où après, je me suis retrouvé à faire autre chose. Le Monde, je suis rentré pour m'occuper du Monde Campus, venant de la direction de la rédaction de l'étudiant. Donc, il y avait une continuité assez évidente. Et ça n'est qu'au bout de 2-3 ans que finalement, je suis devenu généraliste et que j'ai commencé à m'occuper des événements et partenaires éditoriaux. Les enfants des livres, c'est exactement la même histoire. C'est que sur France Info, L'été, j'allais pas faire des chroniques sur l'éducation, c'était quand même les vacances, il faut laisser les gens respirer 3 secondes, moi y compris. Et donc à chaque fois, il faut que je trouve un concept un petit peu différent. Et une année, grâce à mes beaux enfants d'ailleurs, qui étaient de grands lecteurs, enfin, en même temps, belles filles, je me suis dit, tiens, pourquoi je ferais pas des conseils de lecture, c'est l'été. Mais mon angle était les livres dans lesquels on apprend quelque chose. Donc je pensais plutôt aux documentaires, je pensais aux romans historiques, etc., etc. Donc le premier été, je l'ai fait là-dessus. Et la chronique Play. Et 2 jours avant la rentrée, le directeur de France Info, Pascal Delorme à l'époque, me dit « Bah écoute, c'est sympa, tu veux pas en faire une chronique hebdo ?» Et Roulet Jeunesse, c'est né comme ça. Donc après, je me suis détaché des livres dans lesquels on apprenait des choses au sens scolaire du terme. Mais j'étais quand même rentré par là, ce qui me rassurait, parce que j'avais 2-3 repères. Le cas échéant, je pouvais toujours appeler un prof que je connaissais. On leur dit « Donc, t'as vu, je vois la collection machin. » Donc en fait, je suis rentré par l'éducation. Et les enfants de la musique, c'est pareil. C'est-à-dire que en fait, Marc-Olivier Dupin, qui dirige à ce moment-là France Musique, enfin, il vient d'être nommé directeur, me contacte en me demandant de venir faire un truc sur la pédagogie musicale. Pourquoi ? Parce que à l'époque où il s'occupait du plan pour les arts à l'école, enfin le versant musique pour Jack Lang, moi je travaillais à Libé et il y a plein d'arts qui étaient concernés. Comme je connais un peu mieux la musique que les autres, j'ai fait plus d'articles sur la musique, pas pour faire la promo de la musique, mais tout simplement parce que je me repérais mieux et j'étais plus en capacité d'évaluer si c'était sérieux, pas sérieux, etc. Et là, il me demande une émission sur la pédagogie musicale. Et là, je me dis, le problème, c'est que comme journaliste d'éducation, par exemple, moi, un enfant qui apprend à lire, j'ai jamais vu. Et la musique, c'est pareil. Apprendre, c'est long, c'est un process. Donc, comment on rend compte de ce process de manière vivante ? Donc, si vous prenez la musique, c'est terrible, parce que vous pouvez aller mettre votre micro, quand vous êtes à la radio, dans une salle avec des enfants qui chantent faux, ou qui grincent, au violon. C'est peut-être très intéressant, mais radiophoniquement, c'est pas génial pour garder les gens. Et donc, c'est là où je lui ai proposé, je lui ai dit, on va le faire à l'envers, et on va faire l'émission à partir des traces que laisse une pratique musicale dans une vie. Et une pratique qui n'est pas forcément une pratique de niveau extraordinaire, mais une pratique musicale dans l'enfance ou dans l'adolescence. Et donc à l'époque, j'invitais des comédiens, des scientifiques, des politiques, des écrivains, enfin bref, des tas de gens qui avaient fait leur point commun, c'est tout ce qu'ils avaient fait de la musique, un peu sérieusement quand même. Même mes pas de côté sont des pas de... C'est plus des petits écarts ou des grands écarts que des vrais pas de côté. C'est-à-dire que le lien avec l'éducation reste extrêmement important.
Et la littérature de jeunesse, elle a laissé des traces en vous ? Est-ce qu'elle continue à laisser des traces en vous ? Est-ce que vous lisez encore de la littérature de jeunesse ?
Eh bien, grâce à School TV, je me suis mis à en relire pour 2 raisons. D'abord parce que Célie Luton, qui est notre chroniqueuse, qui est libraire par ailleurs, et qui est notre chroniqueuse livre jeunesse, me fait lire des livres. Et d'autre part, parce que dans les invités, il y a des auteurs jeunesse qui viennent régulièrement. On a reçu Nathalie Kuperman il n'y a pas longtemps. On l'a reçu pour parler du sentiment parce qu'elle avait publié Amoureuse. On a reçu Jean-Philippe Arouvignaud, qui est, alors lui, chez Gallimard, jeunesse, qui a publié notamment Enquête au collège, qui a publié toutes les histoires des gens, quelque chose. Donc voilà, donc ces 2 exemples-là. Mais oui, je suis finalement, j'en relis.
Vous écrivez aussi, alors vous avez publié plusieurs ouvrages. Combien, vous savez combien vous en avez publié ?
Ouais, 10 sans doute.
Alors je pourrais citer comme titre « Réveille-toi Jules Ferry, ils sont devenus fous, comment la gauche a perdu l'école, peut-on encore changer l'école ?» Je cite cela parce que je trouve qu'il résonne d'une certaine manière. Là, nous sommes à l'heure de la constitution d'un nouveau gouvernement. On sait que les enseignants, c'est une profession qui traverse une crise de vocation. En tout cas, beaucoup se disent assez mal en point. Comment est-ce que vous voyez-vous les changements qui se profilent pour l'école à la rentrée 2022 ?
C'est très dur de répondre à cette question parce que j'ai choisi d'être et de rester journaliste. C'est aussi parce que j'avais pas envie de répondre à ce genre de questions qui entraînent plus du côté de... On a des leçons à donner ou des idées sur ce qu'il faudrait faire, pas faire. Moi, je me méfie beaucoup des journalistes qui savent mieux que les ministres ce qu'il faudrait faire. D'ailleurs, au risque d'énerver ceux qui ne les aiment pas, et quel que soit leur bord politique, en des années d'observation de ce que faisaient les ministres et les cabinets ministériels et leurs administrations, l'essentiel du temps, j'ai vu des gens qui essayaient de faire ce qu'eux pensaient être bien. Voilà. Parfois, ils font pas très très bien, et ça, c'est pas moi qui le dis. Soit les résultats des évaluations, soit plus simplement les enseignantes et les enseignants qui se disent malheureux. Ce que j'entends aujourd'hui, quand je les écoute, et j'entends surtout un défaut de, enfin, une tension entre un discours autour de la confiance et une pratique quotidienne du métier qui n'est pas toujours marquée par ça. Mais voilà, je me méfie en même temps des généralités parce que, et on le voit sur School TV, mais on le voit ailleurs, et les enseignants le savent, sur le terrain, il se passe plein de choses absolument formidables, et c'est pas parce que politiquement ou syndicalement, les enseignants n'auraient pas le moral ou seraient en colère, que pour autant, quand ils sont dans l'établissement, dans la classe, ils n'ont pas le moral et ils sont en colère. Ce qui est intéressant, c'est de raconter ces 2 choses à la fois.
Mais par exemple, si vous deviez republier « Peut-on encore changer l'école ?» en 2022, est-ce que vous imaginez le sommaire différemment ?
Malheureusement, il n'y a pas grand-chose à réécrire, mais notamment parce qu'il n'y a plus de sujet, parce qu'il n'y a plus de parti socialiste. Parce qu'en fait, c'était une réécriture de comment la gauche a perdu l'école. Et comment la gauche a perdu l'école, c'était après 2002. Et c'était un bouquin, donc la gauche avait gouverné pendant 5 ans, il y avait eu Alleg, il y avait eu Jospin, Jack Lang. Mais bon, avant, il y avait eu Zénie Jospin, etc. Et c'était surtout un livre qui disait que entre la gauche, vous savez, c'est l'époque de gauche plurielle, et donc entre la gauche libérale-libertaire écologiste et la gauche chevènementiste, laïcarde, républicaniste, je voyais mal comment ces gens pouvaient se mettre d'accord sur un projet éducatif. Je pense que la suite de l'histoire m'a pas forcément donné tort. Bon. Et donc ça racontait ça. Et aujourd'hui, on a un défaut de vision partagée sur l'école. J'ai pas l'impression que le quinquennat écoulé ait répondu à ce défaut de vision partagée sur l'école. Et donc j'allais dire, le plus petit dénominateur commun, le socle sur lequel il serait pas idiot de... sans doute de travailler, c'est ce qui se passe dans les classes, c'est la confiance et le savoir-faire des enseignants qui essayent de résoudre des choses. Ça ne veut pas dire qu'ils savent tout. Enfin, moi, je ne veux pas être démago non plus en disant « les profs sont tous formidables », etc. Puis surtout, ils sont quand même dans une certaine solitude, je trouve. Pas tous. C'est pour ça Internet, de ce point de vue-là, est génial. Ça a permis de créer des communautés, d'échanger, d'avoir de la formation par les pairs, là où la formation institutionnelle fait défaut. À l'évidence, il y a de la place aujourd'hui pour quelqu'un qui dirait, quelqu'une, qui dirait « on va essayer de finalement de faire ce que Bayon avait promis à l'époque, c'est-à-dire de refonder, mais on n'a rien refondé, en vrai. J'essaie de traduire des choses que j'entends, voilà, c'est-à-dire que j'essaie de rester journaliste, de faire une espèce de synthèse de ce que je peux entendre quand des enseignants, des chefs d'établissement, des inspecteurs, etc. me racontent des choses.
Oui, vous faites écho.
J'essaye.
Et si vous deviez publier un livre prochainement, ce serait quoi ? Un roman, un essai et...
Non, j'adorerais être romancier, mais je crois que je serais incapable d'écrire les romans que j'aime lire, donc c'est assez problématique. Non, j'ai pas de livre en préparation. Le dernier que j'ai fait sous mon nom, moi, c'était Le Tsunami Numérique, qui était sorti en 2014. C'est vraiment un bouquin de journaliste. Il se trouve que les hasards professionnels, mais bref, m'avait emmené aux États-Unis en 2012 à plusieurs reprises, notamment dans la Silicon Valley, et que j'avais vu l'émergence de ce qui ne s'appelait pas encore l'EdTech, les technologies de l'éducation. Et là, je m'étais dit, waouh, si le numérique impacte le secteur de l'éducation comme il a impacté le secteur de la presse, de la musique, du tourisme, etc., qu'est-ce qui va se passer ? Donc c'était un peu un exercice de fiction, de science-fiction. Ceci étant, j'ai eu tort à court terme parce que on avait marqué sur la couverture « Éducation, tout va changer de vous près ». Donc non, tout n'a pas changé, en tout cas pas aussi vite. Mais à moyen terme, j'ai pas forcément eu totalement tort parce que ces changements sont en train de se produire aujourd'hui. Et il y a toute une partie des pratiques pédagogiques, il y a toute une partie des choses qui est en train de se faire complètement en dehors de l'institution. Il court après. School TV en est un exemple, d'ailleurs. C'est une initiative privée de gens qui décident de s'emparer du sujet. Leur légitimité, comment dire, démocratique ou de machin, aucune. Si ce n'est que ça les intéresse, ils ont envie qu'on en parle, voilà. Mais de la même façon qu'un tas de profs vont publier des contenus sur TikTok, vont mettre à disposition des choses en squeezant les éditeurs, l'inspection générale, le truc. Malgré tout, il est en train de se produire, je pense, ce tsunami. Juste un peu moins vite que ce que je croyais. Et sinon, non, j'ai accompagné François Taddeï dans l'écriture de ses derniers bouquins, parce que je trouve que ce qu'il a créé, le centre de recherche interdisciplinaire... En fait, j'ai repéré Alors, pas tellement Taddeï que j'avais repéré avant, mais je me suis dit que c'était intéressant, parce qu'en fait, au fil des années, plein de personnes que je croisais, qui faisaient des choses que je trouvais intéressantes, à un moment donné... avec gravité autour. Pour celles et ceux qui ont lu, je dis souvent, François, c'est le Vernon Subutex de la pédagogie. Je ne sais pas si ceux qui ont lu le roman la trilogie de Virginie Despentes. Vernon Subutex, en fait, c'est un disquaire qui se transforme en DJ. Donc, il crée rien forcément par lui-même dans le domaine, puisqu'il mixe. Et plein de gens le suivent sans forcément qu'on sache pourquoi. Mais n'empêche que tout le monde est là. François, je pense que c'est ça. Et c'est quelqu'un qui a... Alors, il a créé des choses. C'est un grand chercheur. Il a des prix en bio. Il est remarquable. Mais sinon, c'est un agrégateur extraordinaire, je trouve, d'un tas d'initiatives. Il a créé un lieu qui est en train de se rebaptiser, Learning Planet Institute, qui agrège un tas de gens qui ont envie de penser, de faire bouger les choses un peu en dehors des cadres. Et ça, je trouve ça assez passionnant.
Merci beaucoup, Emmanuel Davidenkopf.
Merci beaucoup.
À bientôt sur L2 Géant, peut-être.
Avec plaisir.
L2 Géant est un podcast préparé et réalisé par l'École des Lettres. L'École des Lettres est une revue pédagogique, littéraire et culturelle publiée par l'École des Loisirs. La musique au générique est extraite de My Mingus Soul, album du saxophoniste, clarinettiste, flûtiste et arrangeur Philippe Chan. À bientôt pour un prochain épisode sur L2 Géant.